Les coqs chantent les jours pareils, tous se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Cette semaine, nous allons visiter la plus grande ferme de France. Il s'agit du Salon international de l'agriculture de Paris, qui s'est tenu au parc des expositions de la Porte de Versailles pendant 9 jours, du 24 février au 4 mars dernier. Pour en parler, une première escale au pavillon 1, dans le bureau du Sénéca. Précisons que le Sénéca, c'est le Centre national des expositions et concours agricoles. Créé en 1963, le Sénéca est propriétaire du Salon international de l'agriculture et du Salon du cheval de Paris. Il est par ailleurs copropriétaire avec le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt du Concours général agricole. Nous allons rencontrer Valérie Leroy, qui est directrice du Salon international de l'agriculture de Paris.
C'est la 55e édition.
Alors, il y a combien d'exposants ?
Alors, nous recevons 1000 exposants. Qui sont à la fois des éleveurs d'animaux, des agriculteurs et puis aussi des institutionnels avec par exemple les banques, les assurances, les organisations agricoles, les syndicats, etc.
Oui, j'ai vu qu'au pavillon 4, vous avez rassemblé tous les instituts de recherche.
Voilà, dans le pavillon 4 exactement, ce sont les métiers et services de l'agriculture. Donc on peut découvrir là toutes les formes de métiers qu'on peut avoir dans l'agriculture. Et puis les banques, les assurances, les organismes de recherche technique, etc. Tout ce qui est la recherche fondamentale en agriculture.
Toutes les filières sont là, j'ai fait largement le tour, j'ai vu tous les pavillons, toutes les filières sont là.
Toutes les filières sont là. La filière animale, dans la filière animale, il y a la filière lait et la filière viande. Il y a les végétaux, il y a même maintenant de plus en plus les matériaux biosourcés, c'est-à-dire les produits qui sont réalisés à partir de résidus de matières agricoles. Il y a le conseil, il y a les produits, filière produits. Ouais, effectivement, toutes les filières agricoles sont là.
On ne le sait pas, mais sur le salon, il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de rencontres.
Alors, il y a beaucoup d'exposants qui profitent pour faire leurs propres conférences, soit conférences techniques, soit rencontres professionnelles. Et nous-mêmes, nous avons un programme de conférences très adapté au salon dans leur format, puisqu'elles font 30 minutes et elles permettent de faire le point sur certaines thématiques. Et on a un programme de 25 conférences comme ça pendant toute la semaine.
Pour les acteurs des filières agricoles, le Salon international de l'agriculture de Paris, c'est la grand-messe annuelle. Pour situer les choses dans le temps, un peu d'histoire. Et ça remonte jusqu'en 1844. Cette année-là, le concours des animaux gras et des animaux de boucherie est inauguré à Poissy dans les Yvelines. En 1870, création et lancement officiel du concours général agricole à Paris. Les choses évoluent tranquillement et en 1964, le Salon international de Paris ouvre ses portes pour la première fois. Au fil de cette évolution, le Salon grandit et rassemble aujourd'hui l'élevage et ses filières, les cultures et les filières végétales, les produits de régions de France, d'outre-mer et du monde, les services et les métiers de l'agriculture. Il faut un long travail de préparation d'un tel événement.
Concours général agricole, c'est une particularité française. On fait cette année sa 126e année, donc il a été créé sous Napoléon.
Le salon lui-même est né du concours agricole.
Voilà, donc en fait le concours général agricole a été créé d'abord et ensuite il a été décidé de mettre autour des animaux qui étaient récompensés des produits, des vins. Et les régions se sont rattachées après. Donc le salon lui-même existe depuis 55 ans, mais le concours général agricole des animaux existait avant.
Comment on organise ce concours ? Mettons, voilà, j'ai un taureau, je suis dans ma ferme, et moi je suis persuadé qu'il est le meilleur, et je veux venir le montrer au salon de Paris. Alors, comment ça se passe ?
Alors, vous avez un taureau d'une certaine race, donc vous appartenez à un organisme de cette race-là qui vous aide à développer cette race, qui vous donne des conseils techniques, etc. Et à cet organisme, vous allez dire, voilà, mon taureau, très fort reproducteur, peut être sélectionné, donc au cours de concours qui ont lieu dans les différentes régions. Et ensuite, si vous êtes sélectionné, En finale, vous avez le droit de venir à Paris.
C'est-à-dire que je commence dans mon village, puis je sors de mon village, puis après par région. Et finalement, je finis au national. Et là, c'est les cracks qui se rencontrent au national.
C'est exactement comme si c'était le championnat de France des meilleurs clubs de je sais pas quel sport qui avait passé toutes les sélections et qui arrivait là, oui, comme l'élite.
Je vais poursuivre mon rêve avec vous. J'ai été sélectionné, mon taureau est arrivé à Paris et j'ai gagné la médaille. Qu'est-ce que ça implique pour moi ?
Alors déjà, vous êtes largement félicité. Vous êtes venu pour recevoir la plaque et la médaille d'or du taureau meilleur reproducteur dans telle race. Vraisemblablement, vous allez être très vite contacté par des personnes et des professionnels en recherche de semences, puisque votre taureau sera un reproducteur, qui vont venir vous voir en vous disant, voilà, moi, je veux que mes vaches soient inséminées par votre taureau, donc combien coûte sa semence ? Et vraisemblablement, vous allez faire du business autour de cette médaille, finalement, puisque vous allez vendre la semence de votre taureau qui sera reconnue comme pouvant avoir une lignée très grande d'un certain nombre de descendants.
Ah donc, avec cette médaille, du coup, que ce soit en viande, en lait ou en tout ce que vous voulez, la semence de mon taureau, ça vaut de l'or.
Ouais, c'est ça, ça vaut de l'or, oui.
Je vous remercie.
Je vous en prie, merci à vous.
On quitte le pavillon 1 et on va sur le stand de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans le pavillon 4. Nous sommes reçus par Claude Cochonneau, président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture de France.
Comme tous les ans, les chambres d'agriculture sont très présentes sur ce salon, hein, de par notre mission de conseil auprès des agriculteurs. Donc, toutes nos équipes sont mobilisées pour ce salon, pour être en mesure de recevoir les agriculteurs, certes, mais aussi recevoir les parlementaires, les députés, les ministres qui passent pour leur expliquer les problématiques qu'on a en agriculture en ce moment et ce qu'on attend d'eux au niveau des futures lois pour pouvoir nous aider et accompagner les agriculteurs dans la transition de leur métier.
Si j'ai bien compris, vis-à-vis des agriculteurs, ça c'est l'action d'encadrement et de conseil.
Pour les agriculteurs, nous, on les accompagne au niveau de du développement de leur entreprise, mais on accompagne aussi les jeunes au moment de l'installation. Et puis on avait aussi, dans le cadre de ce salon, on a aussi organisé des concours, notamment par rapport à des concours de start-up, au travers d'Agreen Start-up, où on met en compétition des jeunes à qui on demande d'avoir un projet, de monter un projet sur quelques jours, sur la manière dont ils pourraient changer le quotidien des agriculteurs. C'est tout ça le salon d'agriculture, quoi, au-delà du passage des gens et du plaisir qu'on a à recevoir les Parisiens, les citadins et l'ensemble des gens qui viennent voir ce salon.
Ce concours des jeunes, c'est l'innovation.
Oui, l'innovation, évidemment qu'on est très tourné vers l'innovation parce qu'on considère qu'une grande partie de la solution pour les agriculteurs, c'est la recherche, l'innovation et le transfert au niveau des agriculteurs. Et pour la partie transfert, c'est évidemment les chambres d'agriculture qui sont en première ligne.
Et vis-à-vis des autorités publiques, là c'est le plaidoyer.
Évidemment, nous on dit aux autorités publiques, la société a des exigences pour l'agriculture, vous avez des exigences envers nous, accompagnez-nous, aidez-nous aussi à répondre à ces exigences, parce que l'agriculteur lui-même peut être un peu perdu par rapport à toutes ces demandes diverses, quoi. Et on est là pour les accompagner, et pour les accompagner, il faut arriver aussi à parfois à mettre des financements pour les aider à changer de pratique ou à changer de méthode de travail.
Donc les autorités publiques aussi, quand ils sont sur les stands, vous les rencontrez, vous expliquez les problèmes des agriculteurs.
Bien sûr, on voit le ministre, on voit les députés européens, les députés français, et qu'on essaie à chaque fois de convaincre pour que dans leur travail de parlementaire, ils arrivent à nous, ils essaient derrière de nous aider et de voter des lois qui nous intéressent.
Oui, là j'ai vu que vous avez un grand stand là.
Ah oui, bien sûr, le stand, parce que on est aussi avec les instituts techniques, donc c'est normal qu'on ait un grand stand, mais le stand est plutôt, il est à la taille des chambres d'agriculture en France, c'est-à-dire un grand stand.
Je vous remercie.
Merci bien.
L'agriculture en Tunisie est un secteur économique très important. En 2012, le secteur a généré entre 8,5% et 11,5% du PIB national et assure 15% des emplois. Les principales productions agricoles du pays sont les céréales, les olives, les dattes et les agrumes pour le secteur végétal et les ovins pour le secteur animal. C'est notre prochaine étape lorsque nous poussons la porte du pavillon 5. Nous sommes reçus par Lasso Mérida, ingénieur spécialisé en production animale, directeur central de l'Office de l'élevage et des pâturages, qui relève du ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
C'est une institution qui est représentée dans les 24 gouvernorats de la Tunisie. Elle s'occupe de différents programmes, tels que le programme d'amélioration génétique, le programme d'amélioration des parcours, l'organisation de la profession, l'encadrement des différents techniciens en matière de vulgarisation.
Alors, quelle est l'importance de l'élevage dans votre pays ?
L'élevage, il a une importance capitale. C'est que nous avons actuellement l'équivalent de 450 000 têtes bovines, dont la moitié c'est des races pures et l'autre moitié c'est des races en croisement et une partie des races locales. Nous avons l'autosuffisance en lait actuellement et pas encore en matière de viande. Mais ça va venir parce qu'on est en train de peaufiner la filière viande rouge qui est vraiment quelque chose de très important pour éviter les différents problèmes, soit d'écoulement, soit des problèmes de manque de viande dans le marché. Mais en matière de lait, la filière laitière est une des meilleures. Ce n'est pas pour me flatter, mais pour dire que cette filière, actuellement, avec toutes les différentes composantes, ça marche à merveille. Avec, même s'il y a un problème au niveau des réceptions, des centres de collecte ou au niveau des producteurs, donc l'État intervient et actuellement, nous avons une filière qui fonctionne sans problème.
Si j'ai bien compris, c'est un secteur très important pour l'économie nationale et pour l'économie des familles.
Effectivement, à titre d'exemple, 80% des éleveurs tunisiens sont des éleveurs de petite taille, c'est-à-dire entre 3 et 5 vaches. Ils représentent 80%. Et imaginez que toutes ces familles produisent du lait avec ce petit nombre de vaches. Et le plus important, c'est que finalement, vous avez à peu près 2 millions de litres par jour recueillis des différents centres de collecte qui sont bien éparpillés. Et je vous annonce que la Tunisie, elle a bien ressenti au niveau des éleveurs de petite taille de faire ce qu'on appelle le froid à la ferme. C'est-à-dire, il y a un groupement d'éleveurs où on met un tank à lait pour garder la qualité du lait dans les bonnes conditions, avec une température intéressante, jusqu'à l'enlèvement vers les centrales laitières ou les centrales de transformation. Et actuellement, ça marche très bien, on est en train de les encadrer, on est en train de les orienter. Et ça se fait aussi, ce n'est pas uniquement en élevage bovin, mais ça se fait aussi au niveau des lapins, au niveau des, maintenant, les volailles, c'est-à-dire le polyfermier, les cailles, toutes les innovations, on est là pour leur présenter toutes les technologies possibles.
Je vous remercie parce que je sais que vous êtes occupé, mais vous m'avez accordé ce temps.
Avec beaucoup de plaisir. Moi, un salut pour les écouteurs de RFI. Elle est très entendue chez nous en Tunisie, même que ce soit par le système web ou bien par les différents canaux qui existent. Merci à vous et à un prochain salon.
Ok, merci. Merci. Nous restons au pavillon 5 pour visiter le stand du Mali, un pays qui a mis un point d'honneur à être présent chaque année. Nous sommes reçus par Bakary Togola, président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali en abrégé APECAM. Cette organisation de producteurs est le maître d'œuvre de cette affaire. Créée en 1987, l'APECAM dans son organisation a le souci de représenter tout le monde. À la base, chaque village élit 4 représentants.
Ils vont au niveau communal et chaque commune élit 4 personnes encore. Les 4 personnes sont un agriculteur, un éleveur, un pêcheur, un exploitant forestier. Et les 4 élus vont au niveau du cercle. Et ils vont élire 3 délégués là-bas. 3 délégués, ça veut dire que ça peut être un éleveur, un pêcheur ou un exploitant forestier. Et chaque cercle amène les 3 délégués au niveau des régions. Et au niveau des régions, on élu un bureau consensuellement avec les membres associés des organisations OP. Ça veut dire que chaque OP régional, on fait une élection pour choisir 5 délégués qui viennent associer aux 3 délégués des cercles. Par exemple, si tu prends ma région, la région de Sikasso est 7 cercles. Donc 3 délégués par 7, ça fait 21, plus les 5 délégués, ça fait 26. Donc les 26 délégués sont le votant pour choisir un président régional et son bureau. Et les régions de Bamako, il y a 8 régions, 7 régions plus le district de Bamako qui fait 9 régions. Et cette région vient relier un bureau de 32 membres. 32 membres, ça veut dire que les membres, les organisations OPA nationales font des élections pour choisir 5 personnes. Et ces 5 personnes plus les 4 délégués des régions, ça fait 32 personnes, plus les membres associés et les personnes des régions. Donc l'Assemblée est formée et son mandat est limité. Chaque 5 ans, il y a un renouvellement au niveau de la base jusqu'au sommet.
Donc avec cette organisation, toutes les régions sont représentées, toutes les filières sont représentées.
Toutes les régions sont présentées et toutes les filières sont organisées au niveau des régions, au niveau national. Donc l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est la représentante plus valable pour tout le secteur privé. C'est-à-dire si tu parles de l'APGAM, c'est-à-dire tu parles du monde rural.
Et en général.
En général, tu parles du monde rural. Donc, nous sommes le porte-parole du monde rural. Donc,
c'est pour ça que quand on a fait une délégation pour venir au Salon international de Paris, oui. C'est tout naturellement que l'APGAM a été associée.
Oui, oui. Bon, c'est nous-mêmes qui avons amené la délégation parce que c'est nous, l'APGAM est le porteur du dossier. Le ministère nous accompagne et nous appuie au côté de l'État. Mais l'APGAM est le porteur même parce que c'est la profession qui doit prendre ces décisions comme ça. La profession qui doit amener les adhérents même de la profession pour faire valeur à leur production.
Ah oui, donc c'est l'APGAM qui conduit la délégation.
Ah oui,
le ministère vous soutient.
Voilà, le ministère nous soutient. Ça fait 11 ans qu'on est là. C'est l'APGAM qui vient. Le ministère vient nous soutenir. Mais c'est l'APGAM qui est la profession et notre ministre nous soutient.
Moi, j'ai visité votre stand. Il y a beaucoup de filières, il y a beaucoup de coopératives féminines. Comment vous faites pour sélectionner et qui est membre de la délégation ou pas?
Bon, la sélection, c'est très facile parce que tout le monde se connaît dans un seul pays.
Dans le village, tout le monde se connaît.
Tout le monde se connaît. Dans la commune, tout le monde se connaît. Dans le centre, tout le monde se connaît. Donc, avant le salon, on fait un triage. Et on fait une demande à chaque responsable des régions qui sont là-bas dans la région, qui sont valables, qui ont des problèmes, qui sont dans les normes. Et c'est les régions qui font les sélections et nous donner les noms. Et après ça, nous faisons un dernier contrôle et d'amener les produits locaux à la chambre d'agriculture même pour voir ce que les régions disent, c'est vrai, si c'est pas vrai.
Ah oui, vous contrôlez avant?
Oui, on contrôle parce que tout ce qui est sanitaire là, il ne faut pas amener dans un pays comme Paris qui ont un contrôle énorme. Donc on ne peut pas amener des produits qui ne sont pas dans le nom. Donc on travaille avec l'IR, on travaille avec tout ce qui est dans le domaine santé. Donc on fait un contrôle deuxième tour à l'APGAM là-bas.
Pour voir si c'est aux normes.
Si c'est dans le norme. Mais une fois que c'est dans le norme, maintenant le produit qu'on a besoin, on sélectionne par filière pour que chaque filière soit là. Il y avait des filières qui étaient là l'an passé, cette année, ils ne sont pas là. Donc il y a d'autres qui sont là cette année, ils ne seront pas là l'année prochaine. Parce qu'il y a beaucoup de filières. Par exemple, tu prends le beurre de quartier. Dans presque dans toutes les régions, si ce n'est pas le nord, on a les beurres de quartier. Donc tout le monde ne peut pas être là. La manque pareil. Donc on sélectionne. Cette année, on donne priorité à d'autres. Et l'année prochaine, on donne priorité pour que personne ne soit filtré et que tout le monde sache que c'est l'intérêt de l'ensemble de la profession.
D'accord. Mais donc, vous amenez ces gens-là ici,
oui.
C'est pour montrer les produits du Mali,
oui, oui.
Et puis chercher des partenaires.
Oui, oui. Oui, parce que le salon même, c'est ça, faire la promotion des produits agricoles. Et ce que nous, en allant, que les autres ont, sachent que le Mali produit ça. Et là où on a besoin d'autres produits que les autres pays font, pour nous-mêmes sachent qu'on peut trouver ces produits-là. Donc, le salon, c'est presque une école. On vient valoir ce qu'on a et faire savoir ce que les autres ont. Donc après la présentation là, on passe des contrats, on passe des marchés et après on fait les livraisons.
C'est-à-dire qu'il y a des premiers contacts,
oui.
Après le salon on discute, on s'écrit, on se fréquente, on essaie de travailler ensemble.
Oui, oui. Et le salon c'est pour faire une collaboration de travail ensemble. Parce qu'il y a des partenaires qui viennent, il y a cette même pas, mais une fois qu'il a vu les échantillons, il discute, si on est d'accord, on fait des contrats, on signe. Et après notre routine, il va chercher s'il a besoin du beurre de quartier, s'il a besoin d'anacard, s'il a besoin de mangue cessée ou il a besoin de mangue frais. Il vient au Mali. Donc, dans les clauses du contrat, quand même, il y a quelque chose qui est arrêté et chacun doit respecter les clauses du contrat. C'est ce qui est important.
C'est pour ça que quand je suis arrivé, j'ai demandé à M. Togola, à chaque fois, on me dit il est parti, il est en entretien.
Oui, 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 parce que si je suis là, c'est pour faire coordonner les grands entretiens avec. Parce que j'amène les gens. Il peut discuter, mais à la fin, si on doit passer un contrat, il faut que je sois là, veiller sur le contrat et mes techniciens, mes conseillers, pour que tout le monde voit qu'on ne tombe pas dans les erreurs.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Applaudissez pour elle. Maman, viens. Donne les banques pour elle. Toi, tu es ici, on vit ici maintenant. Elle vient d'arriver, qu'on donne chaleur, là, c'est encore en elle. C'est vrai.
L'un des points faibles de l'agriculture dans les pays en voie de développement, c'est la recherche scientifique. Pourtant, on sait aujourd'hui que c'est une donnée incontournable. Au Sénégal, c'est l'affaire de l'Institut sénégalais de recherche agricole qui emploie plus de 70% des chercheurs à temps plein du pays. Sur le stand du Sénégal donc, nous sommes reçus par monsieur le directeur scientifique de l'ISRA, le docteur Elhadji Traoré.
L'ISRA, en sigle, est l'Institut sénégalais de recherche agricole, est un établissement public à caractère scientifique et technologique, c'est-à-dire un institut d'utilité publique dont la vocation essentielle est faire de la recherche pour le développement agricole sur les 5 domaines majeurs du secteur agricole, à savoir les productions végétales, c'est-à-dire la production de légumineuses, des céréales. Cela va de la création de variétés jusqu'aux techniques de culture, au post-récolte et à l'accompagnement au marché. Nous avons un autre domaine qui est le domaine de recherche sur les productions et santé animale. Cela va du diagnostic des maladies, isolement des candidats à vaccins, production de vaccins, alimentation, gestion des troupeaux, zootechnie, etc. Un autre domaine est celui de la production halieutique et aquaculture. Tout le monde sait que le Sénégal a une grande côte, plus de 700 km de côte, donc la pêche est importante. Et l'ISRA doit surveiller, connaître la ressource halieutique avec un bateau scientifique pour cela et aussi développer des techniques aquacoles à l'intérieur du pays. L'autre domaine, c'est la production forestière et le développement durable. On n'a pas beaucoup d'arbres, certes, mais le peu de forêt que nous avons, nous devons protéger cela et surtout travailler à domestiquer certains fruitiers forestiers qui sont d'utilité en socio-économique. Enfin, un cinquième domaine qui est plutôt transversal, c'est le domaine de recherche sur les politiques agricoles et la sociologie et l'économie en milieu rural.
Là, vous êtes obligé de vous intéresser à l'économique, au sociologique.
Ça veut dire quand on mène une recherche, il est d'abord important de comprendre ce que la société veut ou bien ce que la société fait pour ne pas trouver des solutions qui ne sont pas adaptées aux voeux de la société. C'est pourquoi la sociologie est importante en milieu rural.
Alors, si on a regardé les domaines que vous avez cités, votre travail consiste à lever les obstacles que rencontrent les producteurs sur le terrain.
C'est exactement cela. Et quand si je prends le domaine de la production végétale, je peux vous dire que nous travaillons à pouvoir développer des espèces variétales qui s'accommodent au changement climatique, notamment à la rareté des pluies. Je donne l'exemple de l'arachide. Dans les années 60, quand il y avait beaucoup de pluviométrie, nous avions des variétés d'arachide qui pouvaient faire 4 mois de 120 jours pour boucler leur cycle. Aujourd'hui, ce type de variété ne peut plus prospérer dans la majeure partie du Sénégal. Donc la recherche consiste à trouver des espèces, des variétés, à créer des variétés de cycle court ou extra court qui puissent boucler leur cycle en 2 mois et demi, 3 mois pour permettre au Sénégal de produire de l'arachide n'importe où. Donc ça, c'est un acte de recherche qui permet d'adapter les variétés qu'on cultive au climat. Quand on prend le domaine des productions animales, nous travaillons à produire, à connaître les maladies qui sévissent dans la région, mais également à produire des vaccins. Pratiquement tous les vaccins qui sont utilisés pour contrôler les maladies animales au Sénégal sont produits par l'ISRA. Donc il a fallu d'abord connaître ces maladies, isoler les virus ou bien les bactéries qui sont responsables de ces maladies et en faire des vaccins.
Monsieur Traoré, tout ce que vous me dites, c'est de la recherche pointue. Il faut des compétences, il faut des moyens financiers, il faut des moyens techniques.
Oui, la recherche, c'est cela. Bon, ça demande la compétence. La compétence et aussi des moyens. La compétence, ça c'est vrai. Bon, nous pouvons dire que nous avons quand même des chercheurs compétents, même si on n'est pas en nombre suffisant, on aurait toujours aimé être beaucoup plus important que cela.
Donc, vous avez les compétences, même si vous souhaitez en avoir plus. Maintenant, il y a un problème avec la recherche scientifique. Quand vous avez trouvé quelque chose, comment ça se passe de votre laboratoire au champ du producteur?
Merci beaucoup. Mais avant cela, bon, vous avez parlé de moyens. Je pense aussi qu'il faut que je dise un mot. Les moyens, c'est ça où il y a problème. C'est vrai que l'État passe beaucoup à nous soutenir, salaire, les charges de fonctionnement, etc. Mais souvent, les chercheurs sont amenés à faire ce qu'on appelle la compétition, ça appelle à compétition avec les bailleurs pour pouvoir financer la recherche. Ce qui n'est pas toujours le bienvenu parce que souvent, les bailleurs de fonds financent des choses qui les intéressent, mais qui ne peuvent ne pas intéresser directement la population. Donc c'est pourquoi on fait toujours l'appel à nos États de financer la recherche directement. Maintenant, c'est vrai que quand on trouve des résultats, il faut que ça puisse être utilisé par le paysan, par l'éleveur, par le pêcheur, etc. En tout cas, c'est ça la réalité. C'est pourquoi les chercheurs, ils donnent des résultats, mais on travaille de façon harmonieuse, de façon en collaboration avec les structures de développement, les structures de conseil agricole. Au Sénégal, nous avons l'ANCAR qui fait ce travail et par conséquent, la recherche. Après le laboratoire, on a des essais de terrain, nous avons des parcelles de démonstration et pendant ces parcelles de démonstration, on peut travailler avec les paysans. Mais également, nous avons parfois des essais de pré-vulgarisation avec les paysans pour pouvoir faire transférer de façon progressive nos connaissances. Mais le plus important, c'est que ce transfert se fait avec nos collègues du Conseil agricole et rural, l'ANCAR. Et nous, nous avons le devoir de former les conseillers, c'est-à-dire les agents de l'ANCAR, de comment les résultats doivent être utilisés et eux, ils vont faire la vulgarisation à grande échelle.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Nous venons de faire un large tour d'horizon au 55e Salon international de l'agriculture de Paris, parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Nicolas Benita, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante. Avant de se quitter, toujours ce petit rappel, vous voulez écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, c'est désormais facile. Il vous suffit de télécharger l'application RFI Pure Radio, vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.